je vais justement essayer de faire un lien entre ce milieu macrocosme qu'est la planète, où on parle de biodiversité, de grands territoires qu'on doit conserver, et on peut se poser la question pourquoi les conserver, qu'est-ce que ça veut dire conserver, on va y revenir. Et puis un niveau donc du microcosme au niveau du gène. Parce qu'en fait, on peut regarder les organismes sous forme de flux de gènes. Hein. Une plante, elle envoie du pollen et des graines dans un espace donné, et ça peut modifier justement ce paysage agricole ou pas, et avoir des conséquences sur la biodiversité des autres organismes qui y compris l'homme. Donc ça va être ça le fil conducteur de cette conférence, et je vais essayer avec vous d'apporter mon témoignage de chercheur. J'ai été comme vous une lycéenne et je me retrouve maintenant un petit peu de l'autre côté puisque je suis maître de conférence. C'est-à-dire que j'enseigne la génétique évolutive, donc les grandes questions d'évolution des organismes vivants et l'amélioration des plantes. On a tous besoin de plantes pour se nourrir et aussi pour guérir. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes, de schémas pour améliorer les plantes. Donc, on part de plantes sauvages pour aller vers des plantes qu'on appelle domestiquées. J'enseigne ça à mes étudiants d'AgroParisTech, c'est l'ancien Institut National Agronomique qui est à Paris. Il y a un peu l'équivalent à Montpellier, à Rennes, à Toulouse. Donc j'ai apporté des plaquettes que je laisserai à monsieur le proviseur et à vos professeurs ici présents. C'est une possibilité de rentrer dans l'école, c'est une grande école. C'est une grande école, en même temps elle est toute petite, hein. Donc c'est assez convivial. On peut y rentrer en faisant ma suppressé. Faut pas censurer, faut toujours essayer, parce que parfois c'est grâce à des professeurs qu'on a envie de continuer à faire de la science passionnante. Ou bien on peut rentrer avec un master, d'accord. Donc il y a deux possibilités d'y rentrer, et à partir de là vous pouvez donc choisir des enseignements, soit vers le végétal, soit vers l'animal, l'environnement de façon plus globale, voire l'économie. Donc je suis maître de conférence dans cette école, et je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire qui porte les initiales de EBE pour écologie, biodiversité et EBE environnement. Donc l'idée dans ce laboratoire, c'est de travailler avec différentes équipes, tant sur le plan théorique que sur le plan appliqué, sur des questions d'évolution des espèces phytovégétales. Et il se trouve que je travaille en particulier sur les OGM et l'impact de ces plantes transgéniques. Quand je parle d'OGM, je voudrais mettre tout de suite une précision, ce sont les plantes transgéniques. Pour la bonne raison qu'elles sont disséminées dans la nature, d'accord ? Et on les cultive. Il y a une centaine d'hectares de plantes transgéniques qui ont été cultivées récemment en France. On est passé en 2006, j'ai regardé les chiffres hier pour vous, on ne les a pas pour 2007, on est à 20 000 hectares. De plantes transgéniques en France, et on est autour de 120 millions d'hectares dans le monde en plantes transgéniques. Donc je travaille sur ces plantes-là et notamment leur impact sur la biodiversité. Donc là, ça c'est en guise d'introduction ce que je vous ai dit de ma présentation de mon travail. Je voudrais simplement rajouter que je fais partie aussi d'un groupe de travail en éthique et philosophie des sciences au Collège de France, qui est voisin d'AgroParisTech. Et ça me permet, avec des philosophes, des juristes, des médecins, de réfléchir justement aux conséquences que nous autres chercheurs avons sur la société et sur le programme. Conséquences de nos travaux. Et je pense que c'est important pour un chercheur d'avoir cette réflexion-là, parce que c'est aussi, écouter la société. Alors la société, comme on l'écoute, c'est pas uniquement à travers la télévision, hein, mais c'est justement en vous écoutant, connaître vos peurs, vos angoisses, connaître ce qui vous passionne, vos curiosités, et puis toutes les interrogations qu'un être humain a forcément. Donc, nous autres, dans ce groupe de travail, on réfléchit un peu en ce sens-là. Et ce qui m'a amené justement, parce que nous voyageons beaucoup, à Beijing, à Pékin, donc, en Chine cet été, pour présenter une conférence en anglais sur la brevetabilité du vivant. Est-ce qu'il faut breveter les jeunes? Moi, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'on peut se faire de l'argent? Alors, c'est pas ça, là, l'argent, on en a besoin. Hein. Demain, si vous voulez monter une société, vous avez besoin de payer votre masse salariale, des secrétaires, des ingénieurs, des chercheurs. Vous avez un comité d'administration, vous devez rendre des comptes, dans les deux sens du terme. Bon, on a besoin d'argent, on fait une découverte sur un gène, est-ce qu'il faut breveter? Parce que vous vous dites, ben, si je brevette, je vais avoir un retour sur investissement, ça va me permettre d'engager d'autres personnes, éventuellement me diversifier, donc il y a ces questions-là. Et l'autre question qui est d'ordre plus éthique, sur laquelle on a un petit peu réfléchi, c'est de se dire, oui, mais si le gène devient payant, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Se l'offrir pour pouvoir l'étudier, voire l'utiliser dans des génomes de plantes. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est juste? Est-ce que socialement c'est juste? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de protéger la découverte de la fonction d'un gène, et tout en permettant que le progrès continue son aventure? Donc ça, il y a des grandes questions qui sont posées là-dessus. Si vous voulez, on pourra y revenir, parce qu'il y a eu des grandes disputes sur cette question avec l'Institut Curie, par exemple avec les cancers de prédisposition, cancer du sein et du col de l'utérus. Il y a trois gènes qui ont été identifiés. Bon, il y en a peut-être même d'autres qui seraient liés d'ailleurs au cancer colorectal. Et ce sont des gènes qui ont été brevetés par une entreprise américaine. Bon. L'Institut Curie, qui est basé à Paris, c'est un institut important parce que ils mettent au point des kits de détection de ces gènes de prédisposition à ces cancers, forts qui peuvent être fatales si c'est un cancer invasif, soit on fait une ablation du sein, soit malheureusement la personne décède. Donc c'est extrêmement important. Et il s'est trouvé que l'Institut Curie a voulu monter un kit de détection beaucoup plus fin, beaucoup plus sensible, d'une part, et d'autre part, l'Institut Curie, les médecins chercheurs n'avaient pas du tout l'intention d'envoyer les biopsies, donc des tout petits prélèvements qu'on enverrait dans cette entreprise américaine pour des raisons de confidentialité. Donc l'Institut Curie a dit non, nous on va utiliser les gènes BRCA1 et A2 pour monter ce kit de détection beaucoup plus sensible. Et l'entreprise américaine a dit, il n'en est pas question, nos gènes sont brevetés, vous devez payer une redevance, des royalties, comme on dit en américain, sinon on ne vous autorise pas. Donc l'Institut Curie ne s'est pas laissé faire, en disant, vous n'avez pas à capter, à garder cette connaissance, vous devez la faire partager avec l'ensemble des chercheurs de la planète, donc nous allons attaquer. Donc il y a eu un célèbre procès, où d'ailleurs c'était le président Jacques Chirac à l'époque qui présidait la France, qui a porté le dossier à la Cour européenne, puisque l'Institut Curie a formé une alliance avec des instituts en Angleterre et en Allemagne, notamment Oxford et Max Planck, et a décidé de porter l'affaire dans un procès pour essayer de casser finalement cette politique de privatisation de certaines formes de connaissances. Et l'Institut Curie a gagné. Donc les gènes sont à disposition de tout un chacun. Voilà, pour vous parler de ces problèmes éthiques. Et donc la profitabilité du vivant, pour rebondir sur les OGM, parce qu'on va y arriver tout de suite, c'est une question qui a été centrale au Grenelle de l'environnement. Grenelle de l'environnement, je crois que vous en avez entendu un petit peu parler ces derniers temps. On ne vous entend pas bien. Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous avez retenu du Grenelle de l'environnement sur les OGM. Il y a une table ronde sur les OGM. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose de parler de la biodiversité à travers un Grenelle de l'environnement? Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu sur les OGM notamment? En tout cas, moi, j'ai retenu quand même une chose, parce que j'ai lu pour vous les minutes des trois tables rondes qu'il y a eu depuis en fait la fin d'été jusqu'à très récemment. Sur les OGM, il y a quand même deux questions qui sont posées par rapport à une menace, j'allais dire, probable sur la biodiversité. C'est la coexistence avec des champs non transgéniques, conventionnels ou bio. Est-ce que vous mangez bio?
Non,
oui, non. À la cantine, est-ce qu'on mange bio?
Non.
Et vous aimeriez?
Non.
Ah ben ça, c'est curieux comme réponse, parce que je m'attendais... Pourquoi? Vous n'y croyez pas?
Non.
Ça sert à rien. Vous ne croyez pas que la qualité est meilleure? Ah, ça, c'est vrai. C'est plus cher. C'est un bon argument. Bon, donc il y a toute la question de la coexistence entre une culture transgénique, donc un champ transgénique, à côté d'un champ non transgénique. Toute la question est de savoir quelle est la distance de sécurité pour pas, entre guillemets, contaminer. Moi, j'aime pas ce terme contamination parce que c'est un terme qui a été emprunté à tous ces groupes de lobbying sur l'énergie nucléaire, et je crois qu'on en est vraiment très très loin de ces questions de sécurité. Alors, il y a cette question qui a été abordée au Grenelle de l'environnement sur les OGM, liée évidemment avec la conservation et la gestion de la biodiversité. Et la deuxième, c'est justement, ça a été la profitabilité du vivant. D'accord ? Donc, les gens qui sont pas très favorables au développement des organismes génétiquement modifiés, donc les plantes, hein, c'est le fait que justement le gène soit breveté. De sorte que c'est l'ensemble du génome qui est breveté. Donc du coup, la plante transgénique est sous le sceau d'un brevet. Et ça a deux conséquences. Alors, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe de détection des cancers du sein et du col de l'utérus chez la femme. Ça a deux conséquences pour les agriculteurs et les chercheurs. La première, c'est que il y a un geste fondateur de l'humanité, c'est de ressemer une partie de sa récolte. Est-ce qu'il y a des fils ou des filles d'agriculteurs ici?
Ouais.
Vous pouvez lever la main pour avoir un peu une idée, d'accord, parce que j'ai survolé ce très beau paysage, d'accord. Donc beaucoup d'élevage, hein, c'est ça?
Beaucoup.
Qu'est-ce qu'ils font les parents? Comme c'est des vaches, des chefs, qu'est-ce qui... Des vaches, ils font du fromage, donc. Hein. Du lait.
Des vaches, ils font du fromage.
D'accord.
Ça va? Plus encore.
Donc en fait, il y a très peu de culture. Ils sèment de rien, il n'y a pas de graines qui sont semées, il n'y a pas de culture. Un petit peu. Bon, alors, il y a un geste quand même fondateur de l'humanité qui est de ressemer une partie de la récolte. D'ailleurs, ça a été une façon de domestiquer les plantes parce que, au départ, les premiers agriculteurs, quand ils ont commencé à se sédentariser, ils ont inventé l'agriculture. Et l'agriculture, c'est quoi? C'est quand même d'inféoder les plantes à ses propres besoins. Et ils ont sélectionné, je pense, de façon... je sais pas si elle est vraiment insouciante. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. façon intuitive. Parce que l'inconscient, ça relève de la psychanalyse, c'est un petit peu autre chose. De façon, je pense, intuitive de dire, j'ai des gros épis de maïs, mettons, ou j'ai des grandes plantes de blé, donc il doit y avoir plus de sucre, plus de protéines. C'est pas qu'il y avait des sucres et des protéines, mais ça doit être bon pour moi. Donc, on le garde, on ne mange pas, on le ressème. Et ça, c'est extrêmement important, parce que nous, les généticiens, maintenant, on sait lire, décrypter, finalement, cette attitude qu'ont eu les premiers hommes. Donc, moi, je vous parle de ça, il y a 90 000 ans. Ces croisements fertiles, hein, en Turquie, Irak, Iran, là, on ne peut pas y aller, malheureusement. D'ailleurs, on cherche des ethnobotanistes hein, pour aller dans des zones, bien sûr, qui sont sûres, hein, avec des archéologues, hein, des botanistes qui partent avec des archéologues pour... et il y a même des généticiens qui vont prendre des petites graines fossiles dans les sites archéologiques et qui sont capables de vous dire, parce que maintenant, on peut extraire l'ADN, hein, ce qu'on appelle l'ADN fossile. C'est Babo, qui est un chercheur américain qui est maintenant à Berlin en ce moment, qui est capable de retirer l'ADN fossile et dire voilà, cette plante, elle a tel âge. Il y a des botanistes qui vont plus loin que ça avec les généticiens et avec les archéologues pour dire et cette plante-là, on la cuisinait comme ça. On pouvait la cuire, elle a servi pour l'alimentation ou elle a servi pour la pharmacopée populaire. Donc on arrive à faire ça. Donc, ces plantes qui ont été domestiquées sur un petit groupe d'individus de la culture, ressemées l'année d'après, ça permet en fait de sélectionner les meilleurs gènes d'une certaine façon. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la domestication. Domestique. On continue à le faire. Et c'était autorisé jusqu'à la brevetabilité. C'est-à-dire que maintenant, quand une plante elle est brevetée, l'agriculteur, il n'a plus le droit de semer la plante. D'accord ? Comment vous expliquez ça ? C'est comme si vous copiez de la musique ou un film sur Internet, hein, ou un logiciel. Tout le monde l'a fait. Maintenant, on sait qu'on n'a plus le droit de le faire, hein, parce que c'est protégé, il y a des copyrights. Mais c'est la même chose pour les plantes. Si elles sont brevetées, vous n'avez pas le droit de le faire. D'accord ? Sinon, c'est du piratage. Ça, c'est la première conséquence pour l'agriculteur, c'est qu'il n'a pas le droit de ressemer. Donc, dans le Grenelle de l'environnement, les gens qui représentaient, on va dire, le groupe anti-OGM, hein, c'est pas totalement anti, parce que moi, j'ai beaucoup dans les débats invités par la Confédération Paysanne, hein, qui est très présente ici, dans la région, et puis un petit peu en Ardèche, pas très loin de chez vous, hein. Greenpeace et puis tous les mouvements de protection de la nature, pour eux c'est un point important dans le débat. C'est-à-dire que si la France ne décide pas avec l'Europe d'aller à l'encontre de la brevetabilité du vivant, ils vont pas lâcher sur la question des OGM. Donc c'était ça que je voulais dire. Moi c'est ce que j'ai retenu du Grenelle de l'environnement, c'est cette question-là, elle est assez fondamentale. Elle a une autre conséquence pour le chercheur, qui jusqu'ici, comme c'est justement comme les chercheurs de l'Institut Curie, hein, de faire des recherches à l'Institut Curie, de faire même des stages hein, en master, n'hésitez pas, hein, quand vous êtes en fac, hein, à l'université ou bien dans ces écoles-là, de demander à faire un stage. Hein. Une candidature spontanée, moi j'en reçois des gens très bien que nous recevons et qui parfois font des études... très longue et qu'on retrouve après chercheurs. Bref, les chercheurs sur les plantes transgéniques, là pareil, ils ne peuvent pas utiliser le gène qui brevetent, à moins de payer. Moi j'ai des collègues avec lesquels je travaille en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Mali aussi. Ils sont bien embêtés parce que ce sont des gens, ce sont des ingénieurs agronomes, hein, ce sont des chercheurs qui travaillent sur l'amélioration des plantes. Il y a des gros problèmes, je ne vois même pas le mot souci parce que ça serait un euphémisme. Il y a des gros problèmes d'attaques de pathogènes, il y a des attaques de virus, d'insectes, de bactéries, de champignons sur les cultures, où vous avez quasiment 60% de la culture qui n'arrive pas à terme. Alors déjà, ce sont des pays pauvres, les producteurs, les paysans sont des gens extrêmement pauvres. Moi, je me rappelle une fois, je suis allée au Burkina Faso avec mon collègue, parce que on allait rechercher, je fais juste une parenthèse, on allait rechercher des variétés d'oignons, parce que l'oignon, c'est, si vous voulez, c'est la base de l'alimentation. Il y a le mille, il y a l'oignon. Et quand vous parlez avec les femmes, parce que c'est surtout elles qui font la cuisine, elles vous disent toutes, on a besoin de l'oignon dans la cuisine, parce que sinon c'est trop fade. Il y a eu une dévaluation, j'étais trop petite, il y a eu une dévaluation en 1994, tel que l'oignon était plus du tout accessible, c'était trop cher pour les ménages. Et je me rappelle de femmes qui m'avaient dit, mais c'est pas grave, on va se débrouiller quand même, je suis très courageuse, on n'achètera pas un oignon, un cube, mais le quart. C'est-à-dire que je vais garder mon argent pour pouvoir quand même acheter de l'eau. On était vraiment dans une situation dramatique. Et donc nous, les généticiens, on essayait de, modestement, mais quand même, d'améliorer cette situation. Et donc d'améliorer génétiquement l'oignon. Et on s'est dit, on va aller collecter toutes les variétés d'oignon en Afrique de l'Ouest. Donc moi, j'ai participé à des missions au Burkina Faso, au Mali, au Côte d'Ivoire. Je suis allée au Sénégal, je suis allée au Niger, très pauvre le Niger. Et on est allé dans les milieux paysans et on demandait aux paysans si on pouvait prélever des bulbes d'oignons. On allait sur les marchés aussi, des oignons. Et on payait souvent avec de l'essence, on apportait autre chose. Bien entendu, on n'allait pas les spolier. On a fabriqué comme ça une collection de variétés donc traditionnelles d'oignons. Et là, je vous parle de biodiversité qu'on a conservée. Alors, comment on conserve ça? Il y a deux façons de conserver. Bon, les bulbes vont faire, les planter, ils vont fleurir, ça va faire des graines. Vous pouvez garder les graines, c'est ce qu'on a fait. Et aussi, vous pouvez conserver les graines en réfrigérateur. Moi, j'étais responsable de ça en France, mais il y a le laboratoire en Angleterre qui se préoccupe de ces questions-là. Ou bien, vous les ressemez. Et ça, c'est mieux de faire ça. Parce que quand on ressème ces graines-là, elles coévoluent avec les pathogènes, alors c'est des insectes, c'est nous, les virus. Parce qu'il faut savoir que ces pathogènes, ils s'adaptent aux plantes. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est à attaquer les plantes. Les plantes, elles essayent de se défendre, et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce de courbe de l'évolution, ce qu'on appelle d'ailleurs on emploie une image de la reine rouge dans Alice au Pays des Merveilles. On disait Alice au Pays des Merveilles à Noël, vous n'allez pas régresser pour autant. La preuve, on a des concepts en génétique là-dessus. Donc, c'est une course à l'armement. La plante va s'armer contre le pathogène, mais le pathogène aussi, il est fixé, lui, va essayer de contourner. Donc nous, on veut aller plus vite, pas plus vite que l'évolution, mais quand même, on veut les court-circuiter, et on se dit, en ayant toute cette biodiversité à notre disposition, donc là, on est un petit peu dans la concause, parce que moi, je vous parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même assez grand, c'est des longues journées en 4x4 ou en avion si on peut. Mais on peut regarder ça au niveau du gène. Et là, on a eu on a fait des trouvailles drôlement intéressantes parce que on a pu, en regardant, alors je vous mets un petit peu votre attention, parce que je vais essayer d'être simple. Donc, d'accord, on a pris des variétés d'oignons traditionnels dans les différents pays, avec pour objectif de trouver les meilleures variétés résistantes à des pathogènes, avec beaucoup de sucre dedans, qui se conservent bien, etc., afin de les croiser. Hein. Donc de mélanger ces variétés entre elles. En fait, derrière tout ça, l'idée c'est de mélanger les gènes qui contrôlent ces caractères. Ça va en génétique, C'est pas chinois ce que je vous raconte ?
Qui ?
Ah ! Qu'est-ce que vous comprenez pas ? Non, on peut dire tout quand même. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Quand on prend des variétés qu'on les croise entre elles, vous ne comprenez pas ça ? Quand on prend un taureau, et sa femelle pour faire un individu un peu plus performant, comme vous savez. Donc vous prenez des variétés qui sont performantes, pardon, on va prendre une variété A qui va résister à un pathogène, et une variété B qui va être plus précoce, vous aurez quoi comme individu ? Résistante aux pathogènes et précoce. Ben voilà, c'est ce qu'on cherchait. Et en cherchant ça, c'est pas d'une grande évidence. Parce que les variétés, elles parlent pas. Donc, faut les faire parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde dans leurs gènes s'il n'y a pas, justement, ces caractéristiques qu'on va pouvoir après rassembler dans la peau. Et en cherchant ça, on a été regardé dans leur génome, les gènes, on les a identifiés. Et on a pu comme ça retracer l'histoire évolutive de l'oignon en Afrique de l'Ouest, où on a vu que finalement il venait bien d'Égypte et que sa progression allait d'est en ouest. Donc ça, c'était une première chose. Donc on a pu retracer l'histoire très ancienne, d'une part. D'autre part, qu'il y avait des mélanges dans les villages. Donc ce qu'on trouvait dans les marchés, c'était bien... des mélanges de plantes, donc il y avait des échanges entre les agriculteurs et agricultrices eux-mêmes, et d'autre part, il y avait ce qu'on appelle des flux de gènes. Alors, les flux de gènes, c'est des circulations de gènes, c'est-à-dire des gènes qui vont s'échapper par le pollen. Le pollen contient des gènes. Quand on prenait la carte de l'Afrique de l'Ouest avec ses frontières, vous pouvez voir entre le Niger et le Nigeria, eh bien, il y avait pratiquement les mêmes variétés. Pourtant, c'est un pays anglo-saxon, le Nigeria, et un pays francophone, au Niger, et pour autant, on avait les mêmes variétés. Donc, ça veut dire que le pollen et les graines peuvent parcourir des distances assez grandes. Et ce qui m'amène à vous parler après de la coexistence des plantes transgéniques et des plantes dites à culture bio ou conventionnelle, donc de cette circulation des gènes. Donc pour finir l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, on a pu ainsi non seulement retracer l'histoire de ces plantes, qui ont été cultivées, on ne sait pas il y a combien de temps, mais plusieurs milliers d'années, de manière parce que les Égyptiens déjà... pour construire les pyramides, payaient leurs esclaves en kilos d'oignons. Donc, ça remonte à au moins 4000 ans. Mais d'autre part, on a pu donc fabriquer des nouvelles variétés qui sont maintenant à la disposition de ces pays-là. Et troisième sortie de notre travail, de collaboration franco-africaine, c'est d'avoir conservé une biodiversité. À la fois in situ dans un réfrigérateur, comme ça on a toujours les graines à l'abri, mais aussi dans les instituts de recherche, l'équivalent de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, vous connaissez le nom au moins, qui coévolue donc avec ces pathogènes. Donc là, c'est une conservation de la biodiversité vraiment au service des peuples, pour leur alimentation, voire pour leur santé, puisque il y a des c'est un antiplaquettaire aussi, l'oignon avec l'ail, et ça a des vertus aussi antibiotiques, donc ça a beaucoup de qualités. Donc quand je vous disais que une de nos découvertes dans ces recherches, c'était de montrer en fait qu'il y avait des circulations de gènes, donc des pollens ou des graines qui passaient d'un pays à l'autre, ça nous a amené un petit peu à réfléchir à cette question de savoir en fait quelle est la distance que peut parcourir un pollen ou une graine. Alors vaste question, puisque si vous regardez bien les pollens dans un microscope, vous allez avoir des beaux microscopes numériques paraît-il, vous allez voir que la forme des grains de pollen, dans mon laboratoire il y a un groupe qui travaille là-dessus, l'évolution de la forme du grain de pollen, c'est assez passionnant de voir que ça peut prendre la forme d'un ballon de rugby, ou au contraire, l'équivalent du virus, notre virus HIV, plein de petits piquants. Et on peut même se demander si c'est pas une adaptation au vol, aux conditions hygrométriques de l'atmosphère. Alors, faut savoir que le pollen, il est sensible là, aux conditions d'humidité et de température, qu'il faut qu'il arrive sur la plante pour aller féconder les ovules hein, de la partie femelle, viable. Donc, la question est de savoir, certes, un pollen il peut aller très loin, la preuve, quand on fait une carotte dans la glace de l'Arctique ou l'Antarctique, on va trouver du pollen qui est de plantes, parce que à partir de la forme du pollen, on peut même donner un nom à la plante, ce qui est quand même assez incroyable. Moi, en tout cas, ça me fascine de mettre un nom latin à un grain de pollen. On sait que c'est telle plante qui l'a produit. On a encore du mal à dire il y a combien de temps, mais en recoupant, on arrive à voir étalé quand même. Et donc, on a pu montrer qu'on avait du pollen qui était produit par une plante en Ukraine qu'on retrouve en Arctique. Les gens vous disent, mais voilà, le pollen, il va très loin. Donc, imaginons du pollen d'une plante transgénique, il va forcément se retrouver dans le champ voisin. En fait, certes, vous allez le retrouver, mais c'est pas sûr qu'il soit viable, qu'il soit fécondant. Et c'est quand même ça la question. Donc ça, c'est une question qu'on se pose au laboratoire, qui est la distance minimale entre deux champs. Donc nous, on travaille sur le colza, sur le maïs. On a donné une distance de sécurité qui est de 50 mètres. Hier, je faisais un cours à mes étudiants où je leur expliquais comment, à partir d'une expérience qui est la suivante, et après on fait tourner des modèles mathématiques hein, parce que on a besoin, comment dirais-je, de savoir ce qui se passe. Ce qui se passe à 5 mètres et ce qui se passe à 500 mètres, ben, les ordinateurs, les modèles mathématiques, ils vont pas vous dire la même chose. Et puis nous, on n'est pas suffisamment malins pour savoir quelle est la meilleure équation mathématique qui va s'ajuster au mieux au milieu naturel. Donc, pour savoir à quelle distance doit se tenir, vous voyez tout ce que je fais ou pas?
Oui.
Bah, dites-le moi. Donc, pour mêler ce qui peut se passer dans un champ transgénique et un champ bio, voilà ce qu'on fait au laboratoire. Bon, moi, je travaille sur le colza, mais sur le maïs, voilà ce qu'on a fait. Donc, imaginons que cette plante est transgénique. Donc, elle a des grains noirs. Donc, en génétique, on dit qu'elle a un allèle bleu, noir. Et imaginons que ce maïs, c'est un maïs conventionnel, pas forcément bio, mais il n'est pas transgénique. Nous, ce qu'on veut savoir, parce que c'est la question que se posent les citoyens et les citoyennes, c'est savoir à quelle distance doit se tenir, alors, ça dépend comment on se place, hein. Soit c'est le champ transgénique par rapport au champ non transgénique, ou bien, ça dépend comment on se place, hein. Le champ non transgénique doit se tenir à l'écart du plan qui va produire des transgènes. Alors comment on fait pour mesurer cette distance? Sachant qu'on ne va pas utiliser de plantes transgéniques. Les plantes transgéniques en maïs, à l'heure actuelle, c'est des résistances à des herbicides ou à des insectes. Hein. La pyrale attaque les champs de maïs et on a trouvé une bactérie qui sécrète une molécule toxique qui va faire éclater, l'estomac de la pyrale. Responsable quand même de 30% de l'environnement chez l'agriculteur. Comment on fait ça? Comment savoir qu'un grain de pollen qui vient de cette plante-là aura fécondé un ovule de cette plante-là? Oui, très bien. Ça c'est bien, courageux, on a le droit de tout dire, on est entre nous, allez-y.
Mais le sexe, c'est qu'on reste la
On met l'insecte et...
On met l'insecte dans l'enchant, on regarde si la plante
existe. Et si, pardon, j'ai pas entendu la fin.
Et on regarde si la plante
existe. Oui. Oui. Ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on est en train de faire au laboratoire, c'est de suivre le parcours des insectes. C'est pas très simple parce que, bon, le colza, il est pollinisé par les insectes, les bourgons et les abeilles. D'ailleurs, j'étais à l'INRA d'Avignon et de Rennes pour cette question-là. Il y a deux étudiants en thèse qui travaillent sur cette question. Pour le maïs, il est pollinisé par le vent. C'est une plante anémophile. Mais il est attaqué par l'insecte. Donc on peut voir effectivement si les insectes sont. Si les plantes sont résistantes à l'insecte, ça veut dire qu'elles entrent en germe. Bon. Le problème, c'est qu'en France, on ne peut pas faire ça grandeur nature parce que les champs ils sont fauchés par les anti-OGM, donc on ne peut pas faire de recherche in situ. Donc on fait semblant. Donc comment on compte? Comment on fait pour calculer la distance? Quelqu'un a des idées? Non, c'est vrai, c'est une question qui est difficile, parce que ça demande pas mal de réflexion, je ne vous demande pas une réponse, mais vous voyez, quand on commence à se poser la question, on se dit, bon, faut que je fasse ça quand même de façon parcimonieuse, c'est pas que je dépense trop l'argent du laboratoire. D'autre part, on n'a pas beaucoup de temps et on a besoin de main-d'œuvre. Bon, moi, je prends tous les stages, j'ai besoin former une équipe pour aller sur le terrain entre avril et août pour faire des mesures. Donc, on se dit qu'il faut faire des choses simples. Alors, voilà ce qu'on a fait. J'espère que vous voyez tout, sinon vous vous levez. En fait, on a mis... Parce que, ou alors, je pose le micro, mais je crois que ça va être difficile pour l'enregistrement. On va mettre l'épi jaune à différents... Alors, en fait, c'est pas un épi, c'est plusieurs plantes, vous imaginez, hein. Et ça, j'ai réduit l'expérience. Donc, on va mettre l'épi jaune à différentes distances, d'accord, de l'épi noir. OK. Et à chaque fois, l'année d'après, ou dans l'année, on a récolté. Alors, on va dire à 1 mètre, à 5 mètres, à 10 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres. On peut faire comme ça une échelle logarithmique, ou bien on fait ça tous les 10 mètres. Et ça peut aller jusqu'à 1 km. Mais après, il faut avoir les champs. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de contamination autour. Hein. C'est pas évident. Et on récolte. Et je vais faire un petit schéma au tableau tout à l'heure. Et voilà ce qu'on a récolté. Alors d'après vous, ce maïs-là, je l'ai récolté plutôt près du bleu ou près du jaune? Comment? Ouais. Alors, on pourrait dire au milieu aussi, plutôt près du bleu, mais il n'y a pas une prédominance du jaune. On peut compter, d'ailleurs on fait ça, on fait ça en musique en général. On compte les grains bleus et les grains jaunes, et c'est une façon quand même de se rapprocher pour dire attention, là je peux vous dire il y a plus de bleu que de jaune, il y a du pollen bleu qui est venu féconder des ovules jaunes. Et effectivement, on a regardé, et à partir d'une certaine distance, on a très peu de bleu. Alors, quand les responsables politiques nous demandent, bon, alors, à quelle distance on doit se placer, on se dit, mais ça dépend, vous voulez quoi du 0%, alors là, on est chez l'agriculture bio, qui dans sa chair ne veut pas de grains bleus, on n'est pas question. Et puis, on a un seuil qui s'appelle le seuil de 0,9%, vous avez entendu parler. Non? C'est en deçà de ce seuil-là, vous êtes considéré... Enfin, la plante est considérée comme non transgénique, elle n'a pas besoin d'un étiquetage. On ne va pas étiqueter « je contiens des OGM, je suis un OGM ». Donc à 0,9%, donc 0,9% c'est quoi? C'est 9 individus sur 1000. Ça veut dire que 9 plantes sur 1000 ont le droit d'être transgéniques, si je puis dire. Donc nous, on doit, ça c'est l'Europe qui a posé cette ce seuil-là, après des discussions avec nous, hein, les experts, et puis aussi avec des mathématiciens, des statisticiens qui disent, bon, en dessous de 0,9%, de toute manière, on ne peut pas détecter, quoi. Aller chercher 9 plantes sur 1000 dans un champ, vous êtes capable de faire ça? Parce qu'elles ne parlent pas, les plantes. Elles ne vont pas dire, moi, soit vous faites vraiment un champ, on les fait parler par les gènes. Et c'est là qu'on a pu dire que 0,9%, en deçà de ça, c'est très délicat, parce qu'on est au seuil de détection, on n'est pas du tout sûr de bien tomber. Donc les 0,9%, en deçà, vous êtes la plante est considérée comme non transgénique, et dans cette distance-là, vous l'êtes. Alors, la question est de savoir, en mètres, ça donne quoi? Alors, on fait des... parce que là, c'est une expérience avec quelques plantes. On a, en plus, le maïs, c'est une plante qui est anémophile. Donc, il faut regarder la force du vent, la direction du vent. Et vous savez très bien qu'un paysage agricole, c'est très hétérogène. Vous allez en France, on a une grande richesse de paysages. On fait de l'écologie du paysage et je pense qu'il y a des postes qui s'ouvrent au CNRS et à l'INRA sur cette question-là. Ce qu'on appelle landscape ecology, c'est de voir la biodiversité à travers un paysage. Alors, ça peut être un paysage complètement sauvage ou semi-naturel, c'est-à-dire avec des activités agricoles. Quand vous êtes dans la Beauce, vous êtes peut-être allé dans la Beauce une fois dans votre vie, c'est très plat, il n'y a pas de barrière. Donc, le pollen, est-ce qu'il va aller au-delà de 50 mètres ou pas? Ça, c'est une question. Donc, on y répond par des modèles mathématiques, mais il y a un moment donné, les modèles mathématiques, ils peuvent s'éloigner de la réalité. Parce que ce qu'on met dans le modèle mathématique, pour mimer une expérience, c'est les paramètres qu'on veut y mettre. Et ces paramètres-là, on ne les a pas sortis du chapeau comme ça. C'est des paramètres que nous-mêmes, nous les chercheurs, avons décidé qu'ils ont un poids dans le parcours du pollen. D'accord? Bon. Maintenant qu'on a vu ça, donc on est arrivé à peu près aux 50 mètres. Maintenant, la question est de savoir si tout le monde va être d'accord sur cette distance-là. En tout cas, c'est celle qui a été retenue cet été et qui probablement va être retenue prochainement quand il y aura les semis fin mars, début avril. L'autre question, et je m'arrête là parce que je crois que va avoir un peu de temps entre nous pour discuter, si vous voulez bien. D'accord? Sinon, je peux vous raconter d'autres histoires. Mais je voudrais vous raconter l'histoire du colza quand même, parce que c'est la demoiselle qui est intervenue qui met le point quand même sur quelque chose d'important, à savoir quand la plante elle est pollinisée par les insectes, par le bourdon ou l'abeille, comment on fait? Comment on fait pour tenir justement un dispositif de cette sorte-là? Donc là, il faudrait imaginer un colza. Sachant que l'insecte, il a un comportement qu'on commence un peu à connaître. Donc là encore, on recherche des étudiants en thèse pour suivre le comportement de ces animaux. Et il faut savoir que le champ de rayonnement d'une abeille, c'est 2 km. Donc une abeille, elle peut faire 2 km. Alors, c'est pas forcément la même abeille, parce qu'elle se touche. Elles échangent du pollen en cours de vol et du coup elles peuvent passer du pollen d'une abeille à une autre. Quand on fait des captures d'abeilles puis après on les relâche, entre temps on a pris le pollen, on s'est rendu compte comme ça pouvait avoir des distances assez grandes. Donc là c'est quand même un problème pour les chercheurs de pouvoir estimer les distances. Donc on est en train de faire tout un travail là-dessus où on capture des insectes, hein, notamment les bourdons et les abeilles, en bordure de champs, pour voir si effectivement ces insectes pollinisateurs pourraient être, avec le pollen que ces insectes portent sur eux, pourraient justement transporter ce pollen à longue distance. On ne sait pas la distance à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui. Dans 2 ans, si on se retrouve, je vais vous laisser mon email. Je pourrais peut-être vous dire, parce qu'on doit finir notre travail dans 2 ans. Donc là, on commence des manips sur le terrain en Beauce, donc près de Vendôme, et en Bretagne. Là, alors, c'est pas du tout la Beauce, c'est du bocage, donc c'est plein de petites haies qui ferment les champs. Donc avec une biodiversité plus riche qu'il y a en pleine Beauce, avec une agriculture probablement moins intensive, au moins verticide, et on va suivre le comportement des abeilles et du bourdon, savoir la distance que parcourent ces insectes et le pollen que ces insectes portent sur eux, et voir à quelle distance. Donc peut-être on aura des grosses surprises, peut-être qu'on va retrouver le pollen très près ou très loin des champs de colza. Mais on a une hypothèse là-dessus. Et je fais le lien avec la biodiversité, je vais m'arrêter là-dessus. On fait l'hypothèse suivante dans notre programme de recherche qui est pluridisciplinaire, hein, puisqu'il y a des écologues, des généticiens et puis des entomologistes. On fait l'hypothèse suivante. On a un paysage agricole, donc des champs. Si les champs sont totalement ouverts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fermés par des haies, des bois, etc., l'insecte, il va parcourir des longues distances. Mais, si sur son passage, il se trouve près de bordure de champs très riches en biodiversité, avec plein de plantes, qu'on appelle la richesse spécifique, c'est-à-dire un nombre élevé d'espèces végétales qui fleurissent, l'insecte, c'est pas qu'il est feignant, l'insecte, mais il fait comme tout le monde. S'il trouve à manger très près de là où il se trouve, il ne va pas aller voler ailleurs. Surtout qu'elles sont assez fidèles, les insectes, pour être plutôt dans un rayon assez près. En revanche, si les bordures de ces champs sont pauvres en biodiversité, donc pauvres en espèces qui fleurissent, donc pauvre en pollen, pauvre en nectar, l'insecte, c'est qu'il mange. Donc il va parcourir une plus grande distance. Ça, c'est notre hypothèse. Donc, on la teste en allant aussi en Bretagne, où on sait que le paysage agricole, c'est l'écologie du paysage, c'est un paysage donc très fermé. Donc on se dit, lui, l'insecte, il a à manger, donc il ne va pas parcourir de longue distance, puisqu'il y a des haies, il y a plein de petites fleurs, etc. Et on rajoute ça, un paramètre, et non des moindres, s'il y a l'homme dans ce paysage agricole, dans ces deux paysages agricoles. Et l'homme, c'est l'agriculteur. Et l'agriculteur, lui, il veut manger aussi. C'est-à-dire qu'il veut gagner son argent, donc il va avoir le meilleur rendement, donc il va employer des insecticides et des herbicides, dont on connaît assez mal, on va dire, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus d'argent pour payer des recherches sur cette question-là, sur l'impact de ces herbicides, insecticides, etc., sur la faune pollinisatrice, sur ces insectes-là. Donc nous, quand je vous ai parlé de l'hypothèse, voilà, il y a beaucoup de plantes dans la bordure, donc l'insecte ne va pas aller loin, il y en a moins, il va aller plus loin. On rajoute en disant, oui, mais s'il y a beaucoup d'insecticides, d'herbicides, ça va peut-être perturber son comportement. Donc, on regarde, en fait, ces trois composantes, afin de pouvoir dire, d'ici 2 ans, on espère, on verra, si on doit tenir le colza à une distance respectable d'un champ transgénique, compte tenu du fait qu'il y a un impact ou pas des pratiques agricoles sur la biodiversité à travers ces pollinisateurs. Donc, voilà la relation qui, à mon avis, c'est ma conclusion, c'est que la biodiversité, je la vois pas indépendante de l'action de l'homme, au contraire. Je suis pas forcément partisane de grandes réserves, comme si on allait mettre sous cloche une partie de la planète pour dire voilà, on conserve pour conserver. On va être 9 milliards en 2050, je veux bien nourrir les gens. La biodiversité, je la considère pas non plus comme la biodiversité sauvage, mais en interaction avec la biodiversité cultivée par l'homme, ou bien qui sert à alimenter soit des animaux qui seront effectivement dirigés vers l'alimentation humaine. Donc je vois la biodiversité comme des interactions assez fortes avec ces différentes composantes qui sont donc les activités humaines, l'impact humain, et les interactions entre sauvages et domestiqués. Et donc, pour fermer cette conférence sur cette question de biodiversité et coexistence avec des plantes qu'on appelle même biotechnologiques, hein, on n'appelle plus maintenant transgéniques, nous, on espère pouvoir faire des recommandations aux agriculteurs pour leur dire, si vous maintenez la biodiversité dans les bordures de champs, c'est-à-dire en ayant peu d'impact par les herbicides, etc., vous allez pouvoir justement maintenir une faune pollinisatrice qui permettra notamment à ces insectes à vivre, ça veut dire du miel sur les agriculteurs, mais à maintenir une biodiversité, parce que les plantes sans être fécondées vont pas vivre. Et en même temps, ça permettra de ne pas disséminer l'étrangène à des grandes distances par le biais de ces animaux-là. Donc on espère faire ces recommandations. Il se trouve qu'on travaille avec eux et on a une très bonne collaboration. Et ils cherchent avec nous à améliorer leurs pratiques agricoles tout en respectant des objectifs économiques. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention. Et puis ben, on peut peut-être discuter des questions que ça peut susciter. Si vous avez vous-même des réflexions, oui.
Est-ce qu'il y a des lois en France pour
réguler
la France?
Alors, j'ai rien.
Est-ce qu'il y a des lois en France
oui.
Pour réguler la France?